En tout cas, ça fait depuis deux dimanches, nous avons le même programme. Donc, vous avez vu, c'était sur AG que nous allons méditer encore ce matin. Donc, en espérant que vous l'avez lu et relu depuis des années et depuis deux semaines. Donc, AG au chapitre premier. Il est évident que je ne pourrais pas traiter en profondeur les deux chapitres. Mais nous allons méditer sur vraiment le premier chapitre jusqu'au chapitre 2, verset 9. Je vais lire juste le 9 et les 11 premiers versets, chapitre 1er, AG, chapitre 1er. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par AG, le prophète, à Zorobabel, fils de Shéthiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par AG, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison était détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et tout le travail des mains. On lira la suite bientôt. Donc le prophète AG fait partie des prophètes qui étaient rentrés de l'exil, on appelle ça en post-exilique. Ces prophéties concernaient le royaume de Juda, et même au-delà de Juda, nous voyons à la fin même du livre, ça parle le retour du Messie dans toute sa gloire, en faisant signe à Zorobabel, qui est représentant de la lignée de David. Les spécialistes situent l'annonce de la prophétie dans les années 520 avant Jésus-Christ, car c'est en 521 que Darius le Grand prit le pouvoir à Babylone et encouragea le peuple d'Israël à continuer à reconstruire le temple. Donc le thème principal du livre, c'est vraiment la nécessité de reconstruire le temple après 14 ans d'arrêt des travaux. Un reste du peuple était récemment rentré de Babylone par l'édit de Cyrus. Après leur retour, ils se mirent à construire le temple. Après quelques années de début de la reconstruction, leur foi fut mise à l'épreuve. Ils se rendirent compte que les récoltes étaient mauvaises, donc moins de rentrées d'argent. Donc, reconstruire devenait une entreprise coûteuse. Et d'autre part, il y avait l'opposition de la population voisine qui n'appréciait pas la reconstruction du temple. Donc, les enfants d'Israël tirèrent une conclusion, on dirait logique. Faut-il continuer à reconstruire le temple puisque cela devient coûteux? Les récoltes sont mauvaises et nous subissons l'opposition politique. Autant nous occuper de nos propres affaires. Et des fois, nous le disons, puisque nous avons le Seigneur avec nous dans notre cœur, autant ne plus s'occuper des affaires du Seigneur. Nous l'avons avec nous. Et le Seigneur reprend le peuple ici au verset 2. Il dit: ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Le temps n'est pas venu, d'où le Seigneur appelle son peuple en disant, reconsidérez, chers amis, vos voies. Considérez attentivement vos voies. Je pense que dans la méditation de ce matin, le Seigneur nous appelle cette fin d'année à reconsidérer nos priorités. Reconsidérons nos priorités. En lisant ce texte, on se pose la question, Dieu se soucie-t-il d'un bâtiment? Non. Bien sûr, nous savons qu'aucun bâtiment ne peut contenir la présence de Dieu. Dieu est-il contre nos affaires personnelles, que nous nous bâtissions des maisons? Je pense que comme vous, comme moi, loin de vous, cette pensée. Mais si nous voyons à partir du chapitre 2, verset 2 au 11, Dieu nous appelle à faire des choix dans nos priorités, parce que des mauvais choix entraînent des conséquences souvent aussi fâcheuses. Le peuple dit, il y a une vive opposition de nos voisins, les récoltes sont mauvaises. Quand vous méditez ce texte, nous voyons que ce n'était que des excuses. Des excuses du peuple se cachaient dans l'indifférence du peuple de Dieu vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Il y avait une sorte d'égocentrisme qui s'était installé. La négligence de l'œuvre du Seigneur. Mais le Seigneur répond à ses enfants au verset 4, il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter des demeures lampissées? Est-ce le temps pour vous d'habiter? Le Seigneur n'était pas contre que ses enfants aient des maisons pour se loger. Mais nous voyons que pendant que le peuple râlait, pendant que le peuple se peignait de mauvaises récoltes, il se construisait quoi, des maisons lambrissées. Le Seigneur insiste, c'est bien, c'était pas des maisons, ce qui est normal, avoir une maison, mais des maisons lambrissées. Des maisons, des décorations somptueuses. Le petit Robert, j'ai lu dans le dictionnaire, dit, quand on parle de quelque chose de lambrissé, de lambris, c'est que le peuple avait atteint un certain haut de gamme. Donc on disait que les récoltes sont mauvaises, il y a une opposition, mais le peuple était en train, pour leur propre maison, ils étaient en train de continuer à décorer leur propre maison, mais le travail, l'œuvre du Seigneur pouvait attendre. Chers amis, il s'en suit toujours des conséquences tristes quand Dieu n'occupe pas la première place dans nos vies. Nous voyons ici la première conséquence que nous pouvons voir ici, c'est qu'il n'y avait plus d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur dit, ce peuple, donc il y a déjà un éloignement, ce n'était plus mon peuple, c'était ce peuple. À cause de leur indifférence aussi, le Seigneur tourne son visage. Ce peuple, au verset 6, nous voyons ici, le Seigneur va utiliser ici un contraste, je dirais poétique, menant chacune à la même conclusion, amener le peuple à réagir. Vous avez abandonné l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur dit ceci au verset 6, vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. C'est le Seigneur nous appelle à considérer attentivement nos voies. L'appeler le peuple d'Israël à reconsidérer leurs voies. À cause de la négligence du peuple, à cause de l'abandon du tabernacle. Nul, essayez de montrer ici que nul n'est pauvre pour ne pas participer à l'œuvre de Dieu. Pendant qu'il n'était, pour eux, il n'était pas temps, ils construisaient les demeures lambrissées. Ils mettaient des choses, ils mettaient tout, ils prenaient le peu de récolte qu'ils avaient, ils le mettaient même de côté. C'est ce que le Seigneur leur dit. Vous vous empressez, chacun pour sa maison. Mais vous dites, pour la maison du peuple, pour la maison du Seigneur, il n'est pas encore temps. Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu. Le temps de rebâtir la maison du Seigneur. Le temps n'est pas encore venu pour m'engager dans l'œuvre du Seigneur. Alors que nous nous empressons pour avoir nos maisons lambrissées. Ici, un empressement pour leurs propres affaires montre ici la négligence des affaires de Dieu. S'empresser indique dans quel état le degré de leur zèle dans la poursuite de leurs propres affaires avait pris le dessus, ne se souciait même plus de l'œuvre du Seigneur. et leur désobéissance, comme le voyons ici. Le fait de ne pas mettre le Seigneur à la première place entraînant les conséquences aussi des désastres économiques. C'est le Seigneur qui permettait que la rosée ne se tombe plus dans leurs champs. Parce qu'ils vivaient dans l'indifférence. Ce n'était pas une désobéissance frontale en disant « Non, je rejette le Seigneur, je ne veux pas du Seigneur. » Mais disait-le, « C'est pas encore le moment. C'est pas le moment de m'engager. C'est pas le moment d'aller. » Malheureusement, il subissait des conséquences. Il n'y avait même plus d'arroser. L'arroser dans les champs. Le Seigneur nous aide. Je pense qu'on peut tirer comme leçon, chers amis, une bonne ou mauvaise santé spirituelle a une des fortes répercussions sur nos gestions, sur la gestion des biens terrestres. Quelle place occupe le Seigneur dans nos vies? La parole de Dieu nous appelle ce matin à reconsidérer nos voies, à reconsidérer nos priorités. Le Seigneur nous appelle à faire le bon choix dans nos priorités, le mettre à la première place dans nos décisions. La reconstruction du temple n'était pas un but en soi, bien que le temple signifiait la présence de Dieu, mais il devait être au centre de la vie de son peuple. Il devait être au centre de son peuple. Le Seigneur leur dit ici, au verset 8, « Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison et j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. » Montez sur la montagne. Apportez du bois, bâtissez. Engagez-vous, ne dites pas il n'est pas encore temps. Trois impératifs ici qui apportent la solution au problème. Montez, apportez du bois et bâtissez. D'après les historiens, la longue captivité des Juifs à Babylone avait permis aux forêts de prospérer et le bois ne manquait donc pas. Ils devaient simplement aller le chercher pour la reconstruction du temple. Pour glorifier le Seigneur. Le bois était là, mais c'est la volonté qui manquait. C'est la préoccupation des choses matérielles, c'est ce qui préoccupait le peuple de Dieu. Le bois était là. Je fais une parenthèse, juste une anecdote. La construction du lieu de culte que j'ai assisté à Béziers en tant que jeune pasteur, ça commence à dater. Quand je suis arrivé comme jeune pasteur dans le sud-est de la France, à Béziers, plus à côté de Montpellier, cette petite assemblée avait un projet de construction. Elle avait reçu en héritage la somme de 200 000 francs pour la reconstruction de l'église. Avec la grâce de Dieu, nous avons trouvé un terrain. Après quelques mois de travaux, comme ce qui arrive souvent, toutes les églises, les caisses étaient vides. Nous avons continué à prier. Nous avons envoyé des lettres à plusieurs amis, aux associations, en France, dans le reste du monde. Et le Seigneur a répondu à nos prières, par différents moyens. Nous avons reçu, presque tous les jours, on recevait une enveloppe avec un chèque pour la construction du temple, pour la construction de ce bâtiment. Et nous avons même, je vous le dis, nous avons même reçu des anges. Je ne fais pas de la science-fiction. Le carrelage, si vous allez jusqu'aujourd'hui, le carrelage de cette salle, cette grande salle, avait été fait par un SDF. Il ne demandait qu'une seule chose, qu'on lui donne à manger tous les jours et qu'on accepte que son chien dorme dans la salle, ce que nous avons accepté, bien entendu. C'était son compagnon de route. Nous avons reçu des maçons polonais qui ne parlaient pas français, parlaient polonais et quelques mots allemands. À la grâce de Dieu, nous avions une sœur de 75 ans qui avait eu des grands-parents allemands, donc qui baragunait quelques mots aussi en allemand. Ces personnes nous ont construit presque des murs et on ne les a plus jamais revus. Après le gros œuvre, bien sûr, les caisses se sont retrouvées une fois de plus vides. Pour respecter le délai, le service de l'urbanisme, nous avons demandé un crédit de 200 000 aux différentes banques de la ville. Béziers, il y a 25 ans, c'était vraiment une petite ville. Il n'y avait même pas d'université. Toutes les réponses sont revenues négatives. Comment faire? En cherchant des solutions, nous avons continué à prier. Nous avons prié jusqu'à ce que 3 membres de l'église réalisent, se rendent compte qu'ils avaient des épargnes bloquées, ce qui était normal, qu'ils mettaient de côté pour leurs petits-enfants. Vous savez, c'était des gens, des agriculteurs, des gens du terrain. C'est vrai qu'ils ne se préoccupaient pas trop des nouvelles voitures, des nouveaux iPhones. Donc, tout ce qu'ils récoltaient, ils mettaient toujours de côté. Ils ont réalisé. Ils nous ont prêté 200 000 francs sans intérêt. Et nous avons terminé le travail à temps. Mais je n'oubliais jamais l'attitude des frères et sœurs en Christ le jour de l'inauguration du bâtiment avec M. le maire. Il n'y avait qu'un seul mot à la bouche, heureux. Et ça se lisait sur leur visage. Ils étaient heureux. En leur rendant visite, j'ai compris une chose. Ce n'était pas le bâtiment qui les avait rendus heureux, mais le fait d'avoir compris et mis en œuvre la volonté de Dieu. C'est ça qui les rendait heureux. D'avoir mis Dieu à la première place, ils étaient heureux. Reconsidérons nos priorités pour cette nouvelle année. La Bible nous dit, après avoir entendu et écouté la parole de Dieu de la bouche du prophète Agée, le peuple fit un bon choix, le choix d'obéir à la parole de Dieu. Verset 12, ici nous dit, chapitre 1er, Zorobabel, fils de Shitiel, Josué, fils de Josadac, ils entendirent, et tout le reste du peuple, ils entendirent Dieu et les paroles d'Agée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Le peuple fut saisi de crainte. Après avoir entendu, dans certaines versions, écouté, la voix du prophète de l'Éternel, le peuple fut saisi de crainte. Mais ici, il y a quelque chose qui est intéressant ici. J'insiste bien, ici on parle de l'origine du message. L'origine du message qui doit toujours influencer nos vies. Ce n'est ni nos visions, ni nos rêves sont clairs là-dessus, qui doivent influencer notre vie spirituelle. C'est après avoir entendu la parole de Dieu qui nous a agi. Et la Bible insiste là-dessus. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Faisons attention souvent, nous confondons entre vision, rêve et nos propres désirs. Mais la Bible insiste bien ici, après avoir entendu la parole de Dieu, qu'ils eurent une sainte crainte. La réaction du peuple s'y manifeste vraiment ici, ce qu'on appelle une repentance sincère. Il fut saisi de crainte devant l'Éternel, comme le prophète Esaïe, quand il eut visité par l'Esprit de l'Éternel. Quand il y a une sincère repentance, quand nous voyons notre propre misère avec les yeux spirituels, nous sommes perturbés. Mais le Seigneur intervient toujours dans ces moments difficiles. Comme avec le prophète, je l'ai dit, Isaïe, le Seigneur dit au peuple ici, je suis avec vous. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Je relis le verset 13. Agé envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Ces propos devaient leur rappeler la promesse faite à Josué et au peuple lors de la conquête du pays, lors de Canaan. Le Seigneur dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué 1, 5. L'Éternel réagit à leur repentance et à leur désir d'obéir. Verset 14 nous dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'Éternel réveilla l'esprit de Josué, l'Éternel réveilla l'esprit du reste de tout le reste du peuple. Il a fallu qu'ils obéissent, qu'ils acceptent d'obéir, revenir au Seigneur. Mettre le Seigneur à la première place, on dit le Seigneur réveilla leur esprit. C'est toujours l'Éternel qui donne de l'énergie. C'est le Seigneur qui donne la force pour son travail. et nous montre ici que la bénédiction suit toujours l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous donc vous êtes ressuscité avec Christ, dira l'apôtre Paul, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Reconsidérons, chers amis, reconsidérons nos priorités pour cette nouvelle année. Le Seigneur, par la voix de son prophète, envoie au peuple un message d'encouragement. Parle à Zorobabel, chapitre 2, ici. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Oui, le peuple s'est mis au travail. Ils sont mis à se donner. Mais les anciens, ceux qui avaient connu le premier temple, ils ont vu le contraste entre le premier temple, le temple de David, et celui qui était en construction. Plusieurs se mirent à pleurer. Si vous lisez Esdras, se mirent à pleurer, à être dans la tristesse, même dans le découragement. Ils allaient contaminer le peuple et le reste du peuple. Puisqu'ils avaient connu la gloire du premier temple, avec ses dorures de l'or que le roi David avait stocké. Oui, il y avait un fort contraste entre le premier temple. Même le coffre de l'Alliance avait disparu. Pour les plus âgés, c'était un véritable choc spirituel, émotionnel. C'est vrai, nous devons reconnaître plusieurs fois les conséquences de notre désobéissance. Les conséquences de nos péchés peuvent être désastreuses. Heureusement que Dieu, dans sa grâce, a tenu souvent certains effets. Mais le Seigneur dit, prenez courage. Prenez courage, il dit aussi au verset 4 ici. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Travaillez. Ne regardez pas en arrière. Aller de l'avant. Le contraste ici, oui, le temple de Salomon était grandiose. Le temple de Salomon était somptueux. Tous les superlatifs que nous pouvons donner, trouver. Et même des fois, ça nous arrive. Le passé est toujours, n'est-ce pas, toujours merveilleux. Oui, c'est vrai qu'on peut dire aujourd'hui, les jeunes n'ont plus le même zèle qu'il y a 50 ans. Mais le Seigneur déclare ici, comme vous vous êtes repentis, je suis avec vous. C'est qu'ils disent, je suis avec vous. Quoi de plus merveilleux de savoir que l'Éternel est avec nous. Quelle que soit la grandeur du bâtiment, quelle que soit la grandeur du temple, le fait de savoir que le Seigneur est avec nous. S'il est avec nous, qui sera contre nous? S'il est avec nous, qu'est-ce qui nous manquera? Le Seigneur insiste ici. Le Seigneur, il dit, je reste fidèle à mes alliances. Verset 5, chapitre 2. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite à vous quand vous sortiez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Je reste fidèle. Et ça, c'est rassurant. Je dirais même réconfortant de savoir que nous avons un Dieu fidèle. Il dit, je reste fidèle. Même si on veut parler du passé. Le Seigneur dit, je me suis engagé à respecter mon alliance et promis mon esprit resterait toujours avec vous. Il est resté avec eux lors de la sortie d'Égypte. Il dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et plusieurs siècles après, le Seigneur dit les mêmes mots d'encouragement. Fortifie-toi. Si tu t'engages dans l'œuvre du Seigneur, si tu mets le Seigneur à la première place, il y aura peut-être des épreuves, mais fortifie-toi, je suis avec toi. Je reste fidèle. Travaillez et ne craignez pas. Oui, les récoltes ont été mauvaises. Le Seigneur respecte toujours la nature. Les récoltes ont été mauvaises. Vous n'avez pas le soutien de vos voisins. Mais le Seigneur ici continue à les encourager. au verset 8, ici, je reviens au verset 8. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'or et l'argent m'appartiennent. Donc, ne vous focalisez pas sur ce que vous avez là. Là, l'or et l'argent, ce que le Seigneur demande, c'est de le mettre à la première place dans nos choix. Le monde est à moi et tout ce qui renferme, dira le psalmiste. Le Seigneur le dit sur verset 6 et 7, même les nations vous apporteront le nécessaire. Et ce qu'on peut voir ici, verset 6 au verset 23, allusion à Jésus-Christ qui viendra s'installer dans sa nouvelle Jérusalem. Zorobabel est nommé en tant que fils de Shealtiel, donc descendant de David. On peut voir ça, que ce soit dans Matthieu chapitre 3 ou dans Luc chapitre 1er. On voit quand même la descendance de David, donc Zorobabel, Joseph et Marie. Le verset 20 au verset 23 montre que les événements prédits ne sont pas encore réalisés, que le Seigneur réalisera ce qu'il a dit. Le premier temple était somptueux. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est que je suis là. Le Seigneur dit, je suis présent. C'est le plus important. Je suis le présent. Je suis avec vous. Je reste fidèle à mon alliance. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Persévère dans mon œuvre, le dira au verset 6, au verset 9. Les historiens bibliques nous rappellent que lors de la construction du temple de Salomon, plus de 100 millions d'euros avaient été convertis en or pour couvrir juste le lieu très saint. 100 millions d'euros d'or. Mais la Bible nous dit, c'est pour ce nouveau temple, le Seigneur nous dit, je couvrirai de ma gloire, je vous accorderai la paix. Là où il y avait de l'or, peut-être qui frappait, qui attirait, le Seigneur nous dit, moi, je vous remplirai de ma gloire. Et c'est parce que pour vous, comme pour moi, c'est le plus important, être rempli de l'Esprit du Seigneur. Je vous accorderai la paix, car dans ce temple où résidera le prince de paix, Jésus-Christ. Quand Dieu occupe la première place dans nos vies, nous sommes en paix. La Bible nous le rappelle, quand le Seigneur occupe cette première place, nous sommes en paix. Alors, chers amis, pour cette nouvelle année qui va commencer, reconsidérons nos priorités. Amen. Reconsidérons nos priorités. Je termine par tirer quelques applications. J'ai acheté des mains, là, pendant les livres qu'on vendait, j'ai acheté des mains un livre qui m'a, pour une éthique biblique, qui m'a interpellé en méditant sur ce message, écrit par c'était un congrès de l'AEPF de 2004. On avait assisté notre frère, monsieur Blocher, qui dit ici dans cet article, parle du danger de l'idolâtrie. Il dit un facteur qui doit nous guider dans notre vie chrétienne. S'il est un point qui est clair dans toute l'écriture, c'est la nocivité de l'idolâtrie. Et la certitude que les idolâtries offensent Dieu et avilissent l'humain fait à l'image de Dieu. Et il continue, ce constat peut nous guider de manière très générale quant à la gestion des ressources. Dès que nous discernons que quelque chose prend la place de Dieu dans la vie des humains, nous pouvons être sûrs qu'il sera sain et approprié de se mobiliser au maximum contre cette usurpation. Vous pouvez le lire. Quelle place le Seigneur occupe dans notre vie? S'il n'occupe pas la première place, peut-être c'est nos besoins, notre personne qui peut occuper la première place, et ça devient une idolâtrie. Et le Seigneur a horreur de l'idolâtrie. La signification du nom âgé, ici j'aimerais tirer une leçon. Vous savez, comme tous les noms des prophètes, chaque nom a une signification. Et âgé signifie fête, on pense toujours peut-être il est né le jour d'une des commémorations, signifie aussi heureux, le bonheur. Et en méditant, j'ai pensé, c'est vrai, le bonheur du peuple quand Dieu occupe la première place dans notre vie. On est heureux. Le bonheur, quand Dieu prend la première place, qui lui revient d'ailleurs. Je ne vais pas m'étendre sur les gilets jaunes. Il paraît qu'il manifeste pour nous. Mais plus l'État donne, plus ils découvrent, les gens découvrent leur misère. Plus l'État donne, plus ils ne sont pas rassasiés. Plus on donne. La France aujourd'hui, nous avons atteint un niveau de crédit incomparable en Europe. Mais les gens ne sont pas contents. Les gens vivent dans la frustration. Pourquoi, chers frères? N'oublions pas ce que j'ai lu au premier. Plus vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de place dans leur cœur. Nous pouvons polémiquer pendant des mois dessus, mais Dieu n'a pas de place. Nous avons un message à annoncer. Nous avons un message à distribuer dans ce monde. Sans Christ, les gens vivent dans la tristesse. Si Dieu n'a pas la première place dans nos vies, ça serait la tristesse. Oui, chers amis, mais quel message apportons-nous à ces personnes? Que connaître Christ est une liste de frustrations que nous présentons à nos amis. Que vivre, connaître Christ est une liste d'interdits? Non. Connaître Christ et mettre Dieu à la première place dans nos décisions, c'est connaître la paix, parce que nous avons le Prince de paix. Parce que le Prince de paix habite en nous. Connaître Christ et mettre Dieu à la première place, c'est connaître la sérénité malgré les épreuves de la vie. Les épreuves, nous en aurons toujours. Mais parce que nous connaissons Christ, parce que nous mettons Dieu à la première place, nous garderons toujours la sérénité. Il a dit, Emmanuel, nous n'avons pas oublié. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu en nous. Et quand il occupe la première place, je serai toujours là. Reconsidérons nos priorités pour cette nouvelle année. Je termine par ce verset, Bible, vous connaissez bien. La Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données. Ces choses, des fois, qui nous préoccupent, que nous voulons, nous avons tendance à oublier le Seigneur. Il dit, cherchez premièrement, cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord les choses de Dieu, et toutes ces choses qui suivent vous seront données. Je peux paraphraser ici, verset de Malachie 3:10. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mettons Dieu à la première place dans toutes nos décisions. Prions le Seigneur. Oui, notre Dieu, nous venons devant toi comme ton peuple, faible, tremblant. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te demander la force nécessaire, afin que cette nouvelle année qui va commencer, Seigneur, ces 24 heures, que tu sois avec nous. Seigneur, que toutes les décisions que nous prendrons, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel, dans toute notre vie, Seigneur, tu sois la première place. Oui, ton peuple a besoin de toi. Seigneur, dirige-nous. Merci de nous avoir soutenus durant toute l'année. Merci, Seigneur, d'avoir fait ton habitation à nous. Que nous te laissons rayonner dans nos vies, afin que ce monde voit qu'il y a un Dieu qui vit, un Dieu qui existe. Merci pour ton église locale. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Nous avons été, plus ont été malades cette année. Et à ceux qui ont eu du mal à venir, Seigneur, mais tu as été là. Et nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.